Bonjour à tous et à toutes, il est 12h30 sur France Culture. Tout de suite, c'est l'heure du journal de la rédaction, présenté par Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Maïlys Bessery, bonjour à toutes et à tous. De ses dîners fastueux à ses travaux, aux frais du contribuable, en passant par une collaboratrice ayant indûment conservé son HLM, François de Rugy continue de riposter tant bien que mal aux multiples accusations de Mediapart et écarte sa directrice de cabinet pour tenter d'éteindre l'incendie. L'épilogue d'une affaire hors norme, Vincent Lambert, patient en état végétatif depuis presque 11 ans, est décédé ce matin au CHU de Reims, un peu plus d'une semaine après l'arrêt de ses traitements. Enfin, le Parlement a adopté définitivement ce matin l'instauration d'une taxe sur GAFA, faisant de la France l'un des premiers pays à imposer le chiffre d'affaires des géants du numérique. De leur côté, les États-Unis ont annoncé avoir lancé une enquête sur les effets de cette taxe. Et puis, à 12h45, Maëlys, ce sera la grande table d'été.
Oui, on va parler de psychiatrie au travers, grâce au roman graphique de Claire Lemen, le syndrome de l'imposteur, avant de faire le portrait de l'architecte du MOCO, Philippe Chiambaretta.
Merci et à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Après les homards géants et les grands crus, le dressing au surlendemain des révélations de Mediapart sur les somptueuses réceptions sur fonds publics des époux Rugy. Voilà que le site d'investigation nous apprend ce matin que le ministre de l'écologie a fait réaliser avec sa femme plus de 63 000 euros de travaux payés par le contribuable dans les appartements privés du ministère. Des travaux de confort dont un fameux dressing pour une valeur de 17 000 euros. Alors était-ce là aussi une manière de rester en contact avec la vie réelle? Quoi qu'il en soit, cette manière de consommer autrement interroge s'agissant de l'actuel numéro 2 d'un gouvernement nommé sur les promesses d'une république exemplaire. Rosalie Lafarge, bonjour.
Bonjour.
Alors ce matin, François de Rugy garde toujours, a priori, la confiance du président Emmanuel Macron. En revanche, la directrice de cabinet de François de Rugy, Nicole Klein, a quant à elle définitivement perdu la confiance du ministre de la Transition écologique. Pourquoi ? Parce que l'ex-préfète aurait conservé pendant plusieurs années un logement social sans l'occuper, elle a donc démissionné hier soir.
Oui, un logement HLM attribué depuis près de 20 ans à Nicole Klein, selon Mediapart, est conservé notamment de 2006 à 2018. À ce moment-là, elle n'habite plus à Paris. Intenable pour le ministre, il se sépare immédiatement de sa directrice de cabinet. Cette rapidité et cette fermeté soulèvent une question. François de Rugy fera-t-il preuve de la même exigence à son égard, interroge la France Insoumise. Ça n'a aucun rapport, selon la députée et porte-parole de la majorité, Aurore Berger, invitée de France Info ce matin.
On est dans des situations qui sont extraordinairement différentes. Quand on est directeur de cabinet, on n'a pas besoin d'avoir un HLM pour pouvoir vivre à Paris. Il me semble qu'il était légitime que vite une décision puisse intervenir. Cette décision, elle est intervenue immédiatement dès que les faits ont été connus. Et je pense que c'est une bonne chose.
Pour le ministre, c'est différent, soulignent plusieurs membres de la majorité. Il préfère s'en remettre à la déontologue de l'Assemblée nationale pour dire si, oui ou non, les dîners homards de François de Rugy entraient dans le cadre de ses fonctions de président de l'Assemblée.
Il faut mettre fin à cette idée très répandue parmi les citoyens, et je les comprends, selon lesquels finalement les élus se font leur propre petit système et qui de fait seraient un peu privilégiés.
Les mots du député François de Rugy tenus ici en 2013 résonnent un peu différemment aujourd'hui au regard des dîners mais aussi des travaux menés dans l'appartement de fonction du ministre, vous en parliez. Travaux justifiés par la vétusté des lieux, se défend-il sur Facebook. Mais après la députée Delphine Bateau hier, Europe Écologie Les Verts demande à son tour ce matin le départ du numéro 2 du gouvernement.
Merci Rosalie Lafarge. Il était le favori du chef de l'État et c'est donc sans surprise que le député Benjamin Griveaux a été investi hier soir par le parti présidentiel comme le candidat de la majorité aux élections municipales de 2020 à Paris. Dans sa première déclaration, l'heureux élu a aussitôt appelé au rassemblement, tendant la main à ses anciens adversaires et notamment le député et mathématicien Cédric Villani, lequel continue de laisser planer le doute sur une éventuelle candidature hors parti. Dans un entretien au journal Le Monde, il y a maintenant plus de 6 ans, l'épouse de Vincent Lambert disait vouloir le laisser partir car c'était là la dernière preuve d'amour qu'elle pouvait lui apporter. Ce matin, le vœu de Rachel Lambert a enfin été exaucé après que son mari tétraplégique et en état végétatif depuis plus de 10 ans s'est éteint à l'âge de 42 ans. Un décès qui marque donc la fin d'un long calvaire pour Vincent Lambert, lequel était d'ailleurs par ailleurs devenu, bien malgré lui, l'otage inconscient d'une longue bataille à la fois judiciaire et familiale. Retour sur cette affaire hors norme avec Antoine Marette.
L'affaire Vincent Lambert, c'est d'abord une histoire de famille. D'un côté, ses parents, opposés à l'arrêt des traitements. De l'autre, sa femme souhaitant le laisser partir. Et au centre, le principal intéressé, incapable d'exprimer son souhait depuis son accident et n'ayant pas laissé de directives anticipées écrites. Résultat, 6 années de bataille judiciaire, cour d'appel, Conseil d'État, Cour européenne des droits de l'homme et même appel à l'ONU pour finalement aboutir à la fin de l'hydratation et de l'alimentation de Vincent Lambert et à sa mort. Jusqu'au bout, ses parents auront tout tenté pour l'éviter, jusqu'à filmer et diffuser des images de leur fils sur son lit d'hôpital en interprétant ses réactions comme la preuve qu'il est resté conscient. Ils ont bénéficié de l'écho de mouvements catholiques opposés à l'euthanasie qui ont affronté par médias interposés et sur les réseaux sociaux ceux qui militent pour la légalisation de l'euthanasie. Et pourtant, le cas Vincent Lambert entre dans le cadre de la loi actuelle dite Claeys-Leonetti. Elle interdit l'obstination thérapeutique déraisonnable et elle permet aux patients de refuser un traitement. L'affaire Vincent Lambert est en fait un cas d'école sur les problèmes posés par l'absence de directives anticipées écrites.
Se dirige-t-on vers une nouvelle guerre commerciale à l'initiative du bouillonnant président américain et dirigé cette fois-ci contre la France, alors que le Parlement vient tout juste aujourd'hui d'adopter définitivement l'instauration d'une taxe dite GAFA sur le chiffre d'affaires des géants du numérique. Voilà que Washington préparerait d'ores et déjà sa riposte dès hier. Donald Trump a en effet ordonné à son administration d'ouvrir une enquête sur la future loi française qui, fonction des conclusions auxquelles aboutira, pourrait conduire à diverses mesures de rétorsion commerciale, dont l'imposition par les États-Unis de droits de douane sur les produits français. Alors, rappelons tout d'abord que cette taxe GAFA vise une trentaine d'entreprises, essentiellement américaines, mais pas seulement, qui réalisent un chiffre d'affaires sur leurs activités numériques de plus de 750 millions d'euros dans le monde, dont 25 millions d'euros pouvant être rattachés à des utilisateurs localisés en France. Par ailleurs, ce texte s'inspire en réalité assez largement d'un projet européen, mais qui n'a pas abouti en raison des réticences de plusieurs États membres, dont l'Irlande, la Suède, le Danemark et la Finlande. Sauf qu'un certain nombre d'autres pays, comme le Royaume-Uni, l'Espagne ou l'Autriche, séduits par la solution française aujourd'hui unilatérale, envisageraient des prélèvements similaires, et c'est bien ce qui inquiète les responsables américains, et plus encore les dirigeants du secteur du numérique, que ces nouvelles taxes, donc sur les géants de la technologie, s'étendent à l'avenir au-delà de la France. Marie Viennot, bonjour.
Bonjour.
Que va chercher à démontrer au fond cette enquête américaine ?
Alors, cette enquête va chercher à établir que la taxe sur les services numériques françaises est discriminatoire parce qu'elle concerne de facto essentiellement des entreprises américaines. C'est une procédure prévue par la loi américaine, loi sur le commerce adoptée en 1974, qui permet ensuite au président américain de prendre les mesures adéquates, y compris des mesures de rétorsion si l'enquête conclut à une discrimination. Cette enquête va prendre plusieurs mois. Les sanctions commerciales qu'évoque Donald Trump ne sont donc pas pour demain. Mais en brandissant cette menace, il fait pression sur les autres pays qui envisageaient de mettre en place une telle taxe et surtout, il sème des graines de discorde entre les États de l'Union européenne. Il faut savoir que l'Organisation mondiale du commerce a été saisie à de multiples occasions sur des questions fiscales. L'Union européenne a notamment porté plainte pour des taxes canadiennes qu'elle jugeait discriminatoires pour ses alcools et spiritueux. Mais pour le moment, il n'y a pas encore eu de cas pour les services numériques. Comme ces services sont apparus récemment, il y a même une ambiguïté juridique. On ne sait pas s'ils sont couverts par les règles de l'OMC ou pas. Alors ça, c'est accessoire pour Donald Trump qui, on l'a vu avec les sanctions sur la Chine, ne passe plus par les longues procédures juridiques prévues par l'OMC pour imposer des sanctions. Mais ça l'est moins pour la France qui pourrait souhaiter, en cas de sanctions américaines, les contester devant l'OMC. Sauf que la France ne peut rien faire seule. Le commerce international est une compétence exclusive de l'Union européenne et donc toute riposte ne pourra se faire que via l'Union européenne. Or, on sait, vous l'avez dit, ses membres sont divisés sur la taxe GAFA. L'annonce de cette enquête américaine va donc ranimer toutes ces tensions et en cela, elle tombe à pic pour le président américain.
Merci Marie Viennot. Dans l'enquête sur le retentissant scandale AMDB du nom de ce fonds souverain censé contribuer au développement économique de la Malaisie et victime d'un pillage de plusieurs milliards de dollars, la justice américaine a annoncé avoir étendu son enquête à Deutsche Bank. Le département de la justice essaye de déterminer si l'établissement allemand a enfreint les lois américaines en matière de blanchiment d'argent. Une enquête qui tombe au plus mauvais moment pour la deuxième plus grande banque occidentale qui en début de semaine a annoncé une restructuration comprenant la suppression de 18 000 emplois. Après avoir hérissé la Chine en annonçant cette semaine la vente à Taïwan de centaines de chars de combat et autres lance-missiles sol-air, voilà que les États-Unis s'attirent à présent la colère de la Corée du Nord après que Pyongyang a appris l'achat par son voisin du Sud de dizaines d'avions de chasse américains. Les autorités nord-coréennes ont aussitôt prévenu que ce contrat allait les contraindre à développer et tester des équipements militaires spéciaux capables de détruire ces nouvelles armes. Fidèle à sa diplomatie du coup de force permanent, Donald Trump a également promis hier hier que les sanctions imposées à l'Iran seront bientôt considérablement alourdies. Enfin, nouvelle illustration de ce que le retrait américain de l'accord international sur le nucléaire iranien, suivi du rétablissement de lourdes sanctions, n'aura fait qu'enflammer un peu plus encore la région stratégique du Golfe. Hier, un pétrolier britannique s'est vu temporairement empêché par plusieurs navires le passage dans le détroit d'Ormuz. L'Iran, aussitôt suspecté, a depuis nié toute responsabilité. On notera toutefois que cet incident intervient moins d'une semaine après que la marine britannique a saisi au large de Gibraltar un supertanker iranien qu'elle soupçonnait de vouloir acheminer du pétrole en Syrie en violation des sanctions imposées par l'UE. Ce matin d'ailleurs, Téhéran a précisé que Washington et Londres allaient regretter la saisie de ce pétrolier. En Italie, Matteo Salvini aurait-il cherché à organiser un montage financier pour que de l'argent russe arrive directement dans les caisses de son parti à quelques mois de la campagne pour les récentes élections européennes? C'est en tous les cas ce que laisse entendre le site américain d'information BuzzFeed, lequel a affirmé hier détenir un enregistrement audio explosif dans lequel un proche collaborateur du ministre de l'Intérieur et cinq autres hommes peuvent être entendus en train de négocier un accord sur comment dérouter de manière cachée des dizaines de millions de dollars provenant du pétrole russe vers la formation d'extrême droite. Comme attendu, Matteo Salvini a formellement démenti. Enfin, on précisera que si la presse italienne a déjà mentionné ses soupçons de financement russe de la Ligue, Vladimir Poutine a lui évoqué il y a une semaine, à l'occasion de sa visite à Rome, un accord de coopération entre son parti Russie Unie et la Ligue. Alors si en Italie, le patron de la Ligue d'extrême droite occupe, on le voit régulièrement à la une des journaux, l'homme qu'il a nommé hier au poste de ministre des Affaires européennes ne devrait pas manquer lui non plus de défrayer la chronique. À 39 ans, Lorenzo Fontana était depuis un an chargé des affaires familiales au sein de la coalition gouvernementale, mais surtout ce très proche collaborateur de Matteo Salvini est un catholique ultra-conservateur. Son portrait est signé de notre correspondante à Rome, Mathilde Imberti.
Lorenzo Fontana, c'est la face nord de la Ligue. Militant de Vérone depuis les années 90, à l'époque, le parti de Matteo Salvini est régionaliste et défend l'indépendance de la Padanie, les régions riches du pays, face à un sud dépensier et peu productif. Il incarne aussi la face conservatrice du parti. Lorenzo Fontana défile avec les associations anti-avortement, défend la famille traditionnelle. En mars dernier, son ministère, celui des Affaires familiales, apporte son patronage au Congrès mondial des familles qui se tient à Vérone chez lui. C'est la réunion des ultra conservateur. S'il devient ministre chargé des affaires européennes, c'est grâce à son grand ami Matteo Salvini, vice-président du Conseil, dont le parti est devenu le plus puissant de la coalition. Lorenzo Fontana remplace à ce poste Paolo Savona, économiste eurosceptique, qui a quitté le gouvernement pour prendre la tête du gendarme boursier en Italie, la Consob. Le légiste, âgé de 39 ans, rejoint donc les sphères européennes qu'il connaît bien par ailleurs. Il a été eurodéputé entre 2009 et 2018 pour la Ligue. Matteo Salvini choisit de nommer un allié sûr à ce poste qui peut devenir clé lorsque l'Italie devra négocier son budget 2020 dans un contexte macroéconomique tendu.
C'était lundi dernier au Pakistan. Trois chaînes de télévision étaient suspendues pour avoir diffusé la conférence de presse de la fille de l'ancien Premier ministre, laquelle accuse, preuve à l'appui, qu'un juge a fait l'objet de chantage pour condamner son père actuellement en prison. Alors déjà classé 142e au classement mondial de la liberté de la presse, c'est peu de dire que le Pakistan est sur une pente glissante. À ce titre, je vous propose d'écouter Daniel Bastard, responsable du pôle Asie de Reporters sans frontières. Il dénonce un système de censure bien établi. Il répond à Capucine Jaffé.
La tendance que l'on observe depuis maintenant au moins un an, c'est une emprise très forte de ce qu'on appelle l'establishment militaire sur le monde civil, sur la justice. Cet establishment militaire ne supporte pas le libre exercice du journalisme. Les choses sont très inquiétantes, d'autant que l'effet pervers de ce genre de pratique, c'est que les journalistes s'auto-censurent. C'est-à-dire que s'ils savent qu'ils risquent d'être agressés, que leur rédaction en chef va perdre des contrats publicitaires, parce qu'ils dépendent beaucoup des annonces publicitaires des différents gouvernements, eh bien, certains journalistes sont réduits à s'auto-censurer. Cette démocratie n'est qu'une façade, et la liberté de la presse, dans cette démocratie de façade, est très sérieusement menacée.
En Algérie, tandis que la répression s'accentue et que les condamnations de manifestants se multiplient, le chef de l'état-major algérien, Gaïd Salah, a mis en garde hier ceux qui s'opposent à l'armée. Il a par ailleurs réitéré sa confiance dans le président par intérim, dont le mandat officiel est arrivé à terme mardi dernier. Enfin, hier soir, Slimane Chenine, un islamiste dont la candidature avait été déposée le matin même à la surprise générale, a été élu à la présidence de l'Assemblée nationale. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Couvert au nord, ensoleillé au sud. Quant aux températures, elles afficheront entre 22 et 34 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. Et je vous retrouve à 18h pour le prochain journal de la rédaction.